Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Émilie Julia.
Homme politique et écrivain, journaliste et même rugbyman, grand amoureux de sa région, il continue à parler sa langue dans les couloirs, quelquefois de la politique française ou à l'ORTF, où il déclare qu'il faut développer les forces de la joie. Un homme donc optimiste, vraisemblablement authentique, qui fait en quelque sorte figure d'exception dans des milieux très galvaudés, où somme toute il s'intègre toujours très bien, et même avec humour. Nous parlons aujourd'hui d'Arthur Comte, qui pouvait mieux nous en parler que sa fille, Dominique Bonnat, écrivaine et journaliste, critique littéraire. Alors bienvenue dans cette émission, Madame Bonnat.
Merci.
Vous êtes, je précise, lauréate du prix Renaudot en 98 pour le manuscrit de Port et Ben, et du prix Interallié en 1992 pour Malika. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui. Alors Arthur Comte, né en 1920 à Sals, donc une petite ville non loin de Perpignan. Il fait ses études à Perpignan même, à Montpellier, avant d'aborder sa carrière professionnelle qui est très large. On pourrait peut-être démarrer par décrire un peu l'atmosphère intellectuelle, politique et sociale de l'époque, car elle voit passer la jeunesse du jeune Arthur. Comment la décririez-vous, cette atmosphère ?
Quand je songe à mon père, j'entends sa voix, j'entends son accent. Et cet accent, c'est l'accent d'une fidélité à une région profondément ancrée en lui, qui est la région catalane. Mon père est né dans un petit village au nord des Pyrénées-Orientales, qui est le seul département catalan en France, mais qui est réellement profondément catalan. Cela veut dire que mon père a grandi en catalan et qu'il a appris le français à l'école. À partir de l'âge de 4 ans. Chez lui, avec ses parents, il parlait catalan. Tout le village, en 1920 et bien au-delà, certainement jusqu'à la guerre, a parlé catalan avant tout. Moi-même, qui suis née bien après la guerre, lorsque j'allais chez mes grands-parents à Sals, c'était encore en catalan qu'on m'accueillait, qu'on m'embrassait, qu'on me félicitait, qu'on me demandait de mes nouvelles. C'était encore cette langue qui était naturelle, qui était maternelle. Et je crois que ces racines catalanes, pour mon père, elles sont essentielles. Je crois qu'elles définissent certainement, en tout cas, sa personnalité. Il y a un tempérament catalan, il y a une histoire, il y a une culture catalane. Et ce ne sont pas des choses d'ordre folklorique. Ce sont des données essentielles de l'individu dès le départ. Moi-même, qui suis née à Perpignan, mais qui ai grandi en exil, c'est-à-dire à Paris, qui ai fait mes études à Paris, et qui ai perdu l'accent que toute ma famille a gardé,
c'est vrai.
Eh bien, je dois dire qu'encore, les racines, pour moi, c'est quelque chose d'important, que le cœur bat plus vite et plus fort quand on revient vers le pays natal, et qu'il y a ce paysage, au fond de nous. Je crois que c'est ça qui est essentiel, plus encore que les idées intellectuelles, que finalement tout ce qui est un petit peu historique ou littéraire autour d'un individu. Ce qui compte avant tout, c'est un paysage, c'est un terrain.
Oui, d'ailleurs, il se fait remarquer à ce propos dans les couloirs de l'Assemblée, car il roule les airs, il a un fort accent. Est-ce qu'il n'a pas apporté quelque part une différenciation ?
Je ne sais pas. À Paris, les accents ont toujours étonné tout le monde, parce que les Parisiens, avec leur accent pointu, dont je suis moi-même un exemple typique, n'aiment pas tellement que chantent à leur oreille les différences régionales. Aujourd'hui, ces différences, elles me paraissent beaucoup moins marquées qu'il y a quelques années. Bien sûr, tout le Midi a l'accent du Midi. Et on ne parle pas avec le même accent du soleil à Marseille et à Perpignan. C'est extrêmement différent comme accent. C'est vrai qu'à Perpignan, c'est plus guttural. On roule les R. Mon père dit toujours qu'il roule les R comme une rivière charrie des cailloux. Et on entend très bien ça. C'est en même temps la fluidité et le côté guttural du catalan. C'est une langue aussi qui a été influencée par des êtres de la montagne, des Pyrénées. Les Pyrénées sont toutes proches. Donc je crois que c'est cette influence montagnarde aussi, elle compte sur le pays. Mais à Paris, forcément, un accent étonne. Récemment, j'ai moi-même écrit une biographie du frère et de la sœur Claudel. Eh bien, les Claudel, qui sont bien plus âgés que mon père, évidemment, eh bien, les Claudel avaient tous les deux l'accent de leur pays, qui était un accent de l'Est de la France, accent du Tardenois, également roulant les airs, charriant des cailloux eux aussi. Et dans les salons parisiens, tout le monde s'étonne, tout le monde s'esclave, parce que la différence ne plaît pas.
Revenons maintenant à la jeunesse du jeune Arthur, à son parcours. Est-ce qu'il y a des moments forts dans sa jeunesse, des moments qui vont influencer son parcours, sa vie ?
Il a grandi dans un milieu qui était extraordinairement uni. C'est une famille solide, c'est une famille où il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Mon père n'a jamais manqué d'affection. C'est un milieu très simple, un milieu de viticulteurs. On vit assez pauvrement, mais pas dans le dénuement. On vit bien, on cultive la vigne. Les paysans de la vigne sont un peu à part dans l'histoire des paysans. Ils ont ce contact avec le soleil, la terre rouge. Et puis, il y a aussi, dans le village, les amitiés, les autres garçons avec lesquels il va aller jouer au rugby près du château. Parce que vous savez, ce village de Sals est surtout remarquable par un château fort qui, contrairement à la plupart des châteaux forts, au lieu d'être construit sur une hauteur, est construit dans la vallée, c'est-à-dire il est tapis au milieu des vignes, au cœur des collines, de sorte que autrefois, quand l'ennemi arrivait à cheval, il le découvrait au dernier moment. Et il a d'ailleurs cette couleur rose qui est celle de la terre sur laquelle il a été construit. Donc il y a tout un climat, je dirais, très, très joyeux dans l'enfance de mon père et très affectueux. Mon père est quelqu'un qui a toujours aimé sa famille, et d'ailleurs c'est cet amour qu'il a reçu, il l'a transmis par la suite. C'est quelqu'un qui est très cher, heureux et pour lequel les valeurs familiales sont essentielles.
Alors vous disiez donc qu'il est né d'une famille de viticulteurs. Qu'est-ce qui est le moteur d'une vie politique, d'une vie littéraire, journalistique ? Qu'est-ce qui le pousse comme ça à devenir, comme on dit, quelqu'un ?
Oui, c'est peut-être un peu mystérieux. Mon père qui aimait son village, qui était heureux au village, quand il est allé à l'école, sans doute, l'apprentissage a dû beaucoup compter. Il a tout de suite été un très très bon élève, immédiatement. Et c'est un ami de sa famille qui s'appelait, c'est un vieux monsieur, moi je l'ai connu très tard, mais qui s'appelait Monsieur Brigoulat. Et Monsieur Brigoulat, c'était donc un ami de mon grand-père, et qui était maire du village de Sals, a vu tout de suite que mon père était un bon élève, studieux, désireux d'apprendre, curieux de tout, avec une grande personnalité. Et il l'a encouragé, il l'a aidé, il l'a conseillé. D'ailleurs, mon père a écrit ses souvenirs, il a écrit un livre qui s'appelle « Au village de mon enfance ». Et là, il raconte comment finalement cette vocation, notamment d'écrire, qui a été la première vocation de mon père, cette vocation d'écrire, cette vocation peut-être par le journalisme de découvrir le monde, a profondément étonné ses parents, qui étaient presque inquiets de le voir s'éloigner vers Perpignan d'abord, la grande ville, et puis vers Paris. Ils pensaient que peut-être ils allaient le perdre un jour avec cette culture qu'il allait recevoir et qui n'était pas celle des siens. C'était des gens qui avaient reçu une éducation, qui écrivaient d'ailleurs très bien. J'ai des lettres de ma grand-mère, de ma grand-tante, qui sont merveilleusement rédigées en français. Elles savaient vraiment tourner leurs phrases magnifiquement, mais il n'y avait pas cette culture, si vous voulez, sur laquelle s'appuie quelquefois un écrivain pour s'exprimer. Chez mon père, c'est une conquête. La langue française est un apprentissage, puisque donc ce n'est pas la sienne au départ, mais également, je dirais, c'est cette vie qu'il a choisie, c'est aussi une conquête. Parce qu'il n'était pas destiné à cela, il était destiné certainement à un destin d'agriculteur, de paysan viticulteur, comme son père, comme son grand-père avant lui.
Quand on pense qu'il ne parlait pas français et qu'après il rédige et il édite autant d'ouvrages en français qui en plus ont fait de lui l'homme que nous connaissons, on se dit que...
Parce qu'il a autant aimé la France. C'est pas parce qu'il est catalan qu'il est forcément, vous voyez, catalaniste, indépendantiste.
Pas du tout.
Mon père a toujours pensé que finalement ses racines qui sont les siennes, cette patrie catalane, était très bien, très à l'aise au sein de la France, finalement. Pour mon père, son pays, c'est la France, c'est évident. Il n'a jamais songé un seul instant une séparation. Vous voyez, il y a aujourd'hui des mouvements catalanistes. Mais pour lui, ce qui comptait, c'était avant tout la langue française, la culture et l'histoire française.
Alors, il fait ses études au lycée de Perpignan ?
Oui, au lycée Arago.
Au lycée Arago, ensuite il part à Montpellier pour les études.
Alors à Montpellier, après le baccalauréat.
Voilà, donc voilà, pour l'université.
Il était en Hippocagne et en Cagne quand survient la guerre de 1940, puisque mon père est né en 1920, il a 20 ans en 1940.
Voilà.
C'est pas vraiment la meilleure date.
Tout à fait. Alors, il démarre sa carrière comme journaliste. Éditorialiste à l'Indépendant.
Oui, l'Indépendant, qui est le journal local, qui est le journal de Perpignan. Et c'est comme ça, en étant grand reporter au journal L'Indépendant, qu'il va faire ses premiers voyages, ses premiers grands voyages, notamment en Afrique. Et l'Afrique va beaucoup marquer mon père. Il aimera toujours beaucoup l'Afrique. C'est un continent qui lui plaît, qui l'attire. Et plusieurs de ses livres, d'ailleurs, y seront consacrés, notamment l'un de ses premiers romans, qui n'est pas son premier livre, et qui s'appelle « Les oiseaux n'y savent pas chanter ».
Beaucoup d'ouvrages sur les pays, sur la politique internationale, Yalta, la conférence de Bandung, etc. Nous y reviendrons. Pour suivre un peu le parcours, donc, il monte à Paris. Quand est-ce qu'il monte à Paris ? Qu'est-ce qu'il fait à Paris au départ ?
À Paris, très vite, c'est la politique qui va l'entraîner. Parce que si vous voulez, au fond, je crois que dans la vie de mon père, il y a plusieurs Arthur Comte. Il y a l'écrivain. Pour moi, l'écrivain, c'est certainement celui qui exprime sa première vocation, la vocation venue à l'école, venue du lycée, des années d'Hippocagne et de Cagne, des études de lettres qui ont toujours été essentielles pour lui. Donc il y a
un homme de
désir
lettres.
D'écrire, plutôt un désir d'écrire, un goût d'écrire. D'ailleurs, j'ai toujours vu mon père un stylo à la main. Je l'ai toujours vu écrire tous les jours de sa vie. Mais il y a d'autres Arthur Comte. Il y a notamment, bon, vous avez cité le journaliste, et c'est vrai, mon père a fait une carrière de journaliste, d'abord à l'Indépendant, mais il écrira ensuite dans la presse nationale, il sera chroniqueur politique à Paris Match pendant de nombreuses années. Cela dit, le troisième, c'est quand même l'homme politique. Je ne crois pas le trahir en disant cela, qu'il a vraiment en lui le virus de la politique. Il a toujours aimé l'action, à côté de cette carrière d'écrivain qui est, comme vous le savez, en général liée à la solitude, à la retraite, à l'enfermement, eh bien, il y a chez lui un goût de se confronter à ses contemporains, un goût vraiment pour l'action, pour l'engagement politique. Il a été maire extrêmement jeune, il était maire de son village à 27 ans, 1947, et cette même année, quand il a été élu maire de son village, il a été élu en même temps président des maires du département. C'est dire que tout de suite, dès ses 27 ans, il était engagé dans la politique. Ensuite, il sera député des Pyrénées-Orientales, très jeune aussi. Et progressivement, il aura des responsabilités à l'échelle nationale qui l'amèneront effectivement à l'UEO, notamment à participer, si vous voulez, à des assemblées qui lui permettront d'avoir un regard également sur la politique du monde. Je crois que c'est un des caractères de mon père. Il a une vision historique très souvent de la vie. C'est un historien qui a écrit beaucoup de livres d'histoire, mais en même temps, une vision très politique de notre époque. Et ce qui l'intéresse, c'est une vision large et non pas une vision serrée ou resserrée simplement sur un village, une région ou même un pays. Il a encore aujourd'hui, il a 88 ans aujourd'hui et encore aujourd'hui, les informations à la télévision, eh bien, il n'en perd pas une miette. Et ce qui l'intéresse toujours, c'est l'universalité, c'est l'échelle du monde. J'ai toujours eu beaucoup d'étonnement et d'admiration pour ce regard qui est le sien, parce que finalement, c'est un regard large, c'est un regard généreux.
Alors, vous vivez toutes ces années auprès de lui, bon, peut-être de loin ou de près. Comment vous les vivez ? Est-ce que vous ne vous sentez pas trop écrasée sous le poids d'une telle personnalité ?
Alors, à la maison, c'est un père qui est assez présent. qu'on voit au repas. C'est un père qui chantait énormément. Mon père a toujours beaucoup chanté, entraînant d'ailleurs mon frère et moi dans des chansons anciennes et qu'il aimait bien chanter. C'est un père qui raconte des histoires. On a été vraiment bercés, je dirais, par les histoires que racontait mon père et qui étaient des histoires qui tenaient de sa grand-mère ou de son arrière-grand-mère, vous voyez. Il nous les a transmis quand on était tout enfant, et d'ailleurs il les a racontés aussi à ses petits-enfants, ces mêmes histoires. Donc c'est plutôt, je dirais, un père conteur qui est à la maison. Jamais je ne l'ai entendu évoquer la politique, sauf peut-être des années beaucoup plus récentes, mais quand j'étais enfant et même adolescente et même jeune femme, je n'ai jamais eu la moindre conversation politique. C'est peut-être à regretter d'ailleurs avec mon père, mais je pense qu'à la maison, il ne voulait pas faire entrer la politique. Donc finalement, c'était plutôt la poésie, les contes qui circulaient, et pas du tout les anecdotes ou les inquiétudes ou les conflits, vous voyez, politique. Et il y avait aussi autour de lui une sorte de silence, malgré tout, ce père qui était plutôt chaleureux et qui parlait volontiers, mais en revanche, il y avait des plages de silence et il était enfermé dans son bureau, on l'appelait son bureau, une pièce qui n'était qu'à lui. Et là, quand la porte était fermée, je crois que ni mon frère ni moi n'aurions, ni peut-être ma mère, nous n'aurions osé taper à la porte. Ça voulait dire que mon père écrivait. Et quand il écrivait, personne ne pouvait, voyez, briser ce silence. C'était quelque chose à la fois d'un peu inquiétant, parce que comme toujours, quand quelqu'un ferme une porte, vous voyez, vous vous dites que ça doit être vraiment très important ou même un peu grave. Mais en même temps, c'était, en tout cas pour moi, pour l'enfant que j'étais, c'était très attrayant, parce que je me disais, ça doit être extraordinaire de pouvoir se retirer comme ça, de fermer une porte, de penser, d'écrire. Ça me fascinait beaucoup.
Qu'est-ce qu'il aime le plus faire ? Écrire, la politique, voyager ?
Je crois qu'il aime tout ça à la fois, mais peut-être qu'écrire est ce qu'il a le plus aimé. Et c'est ce qu'il a le plus exercé. C'est sa grande histoire, ça c'est vrai. Tous ces livres qu'il a enchaînés, ils sont très nombreux. Je crois qu'il a dû écrire peut-être 80 livres. Enfin, ils sont pas loin des 80 livres, ou peut-être davantage, j'aimais vraiment compter. Mais vraiment, toujours cette activité. Et puis, il écrivait avec une énergie incroyable. Lorsqu'il entreprenait un livre, on le sentait dans l'urgence de l'accomplir et de l'amener jusqu'à la fin. Donc il y avait vraiment une passion, il y avait une passion là chez mon père. Mais la politique est inséparable de lui aussi, c'est vrai. La politique a duré très longtemps.
Dominique Bonnat, je vous propose de faire une petite pause en compagnie du chanteur catalan que vous connaissez bien, Louis Iac, qui interprète l'Estac, et on vous retrouve tout de suite après.
La visiseta em parlava de bon matí al portal. Mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca, a on estem tots lligats? Si no podem desfent-se'n, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar.
Revenons à la politique. Donc vous le disiez justement, il a démarré donc maire de Sals, puis il fonde l'Association des maires des Pyrénées-Orientales. Il est secrétaire d'État à l'industrie au commerce du gouvernement Maurice Bourgès-Marmory. Il est député des Pyrénées-Orientales de 1951 à 1973. C'est quand même une période assez longue. Il est directeur de l'ORTF plus tard. Quels souvenirs en garde-t-il ? De cette période à la télévision ?
Ah, la période à la télévision, il a beaucoup aimé. C'est une période brève, mais je dirais fulgurante pour lui, parce que c'était un univers qui l'intéressait vraiment beaucoup, parce qu'il y avait à la fois l'information, la création, les variétés, la chanson, que mon père a toujours aimé. Donc c'était un peu multicarte, une chaîne de télévision. Puis en plus, c'est l'époque où il y a une seule télévision, ce qui est la télévision publique, d'où le nom d'ORTF. C'était à la fois une mission importante, parce qu'il s'agissait d'animer, d'organiser, enfin, cette grande télévision publique. Et pour lui, qui était à la fois, justement, entre la politique, la littérature, les voyages, intéressé à tant de choses, c'était l'occasion, si vous voulez, de rencontrer à la fois des journalistes, des hommes politiques, des écrivains, des créateurs, des chanteurs. Enfin, c'est une époque formidable pour lui. Trop courte, sans doute, et qu'il a... Bon, il a raconté son départ. Le départ a été très difficile, parce que là, à des raisons politiques, il ne s'est pas entendu avec le gouvernement de Pompidou. Et il a écrit pour raconter son histoire, pour expliquer les conditions de son départ. Il a écrit un livre consacré à cette expérience et qui s'appelle « Homme libre ». C'est un livre qu'il a écrit après avoir démissionné de l'ORTF, qu'il a écrit en, je ne sais pas si c'est 15 jours ou 3 semaines, mais enfin de manière, vous voyez, presque un peu violente, pour justement bien éclairer et son expérience et son départ.
On se souvient de lui comme de l'homme qui disait qu'il fallait développer les forces de la joie.
Oui, c'était sa formule, c'était sa devise, c'était son programme.
Donc il était très joyeux.
Je trouve pas mal ce programme, oui, les forces à joie. Il voulait, au fond, il rêvait d'une télévision conviviale, joyeuse, dynamique, voilà.
Alors, il s'intéresse à la lecture, à l'écriture, étudiant. Il s'intéressait à quoi? Alors, on a parlé un petit peu du rugby. Son univers tourne autour de quoi? Ses activités, ses loisirs?
Alors, en dehors de l'écriture et de la politique, il y a quelque chose qui compte beaucoup, c'est le sport. Mon père, donc, jouait beaucoup au rugby. Plus tard, il a joué au golf, qui était un sport qu'il aimait et auquel il s'était mis assez tard, mais enfin qu'il aimait beaucoup et qu'il pratiquait très régulièrement. Donc le sport, ça compte. D'ailleurs, avec mon frère, il a de grandes conversations, qu'il n'a pas d'ailleurs avec moi, qui sont sur le sport, sur les sportifs, sur le tennis. Là, il va y avoir Roland-Garros, il ne va pas rater Roland-Garros, etc. C'est une dimension aussi de sa vie, je crois. Il aime bien les sportifs, il aime bien cette compétition sportive, sans doute qu'il doit reconnaître peut-être où ça l'amuse, où ça le distrait d'autre chose. Mais enfin, en dehors de ça, c'est vrai qu'il a quand même beaucoup voyagé, les voyages ont beaucoup compté dans sa vie. C'est un homme qui ne joue pas aux cartes, qui voilà, ne pratique aucun jeu de société en dehors de la politique.
Que garde-t-il de ses années de politique, notamment ces 20 années en tant que député?
Je pense qu'il a d'abord gardé des amitiés profondes. Des amitiés profondes avec les gens, en particulier les supporters, hein, des militants qui ont suivi à la fois ces campagnes politiques. C'est difficile d'être député, d'être élu. Chaque fois des campagnes éprouvantes. Je me souviens que ma mère supportait très mal d'ailleurs ces atmosphères de combat dans la région. C'est une des raisons pour lesquelles, avec ma mère, mon frère, nous habitions Paris. Et mon père faisait des navettes toutes les semaines, passait la moitié de la semaine à Perpignan. Ça a dû être d'ailleurs une vie fatigante pour lui, mais en même temps ça lui permettait d'avoir plus de contacts à Paris, de développer la politique départementale à l'échelle nationale, et ça lui donnait une autre envergure. Mais de sa politique, je dirais qu'au fond, oui, je suis sûre, ce sont les amitiés qu'il garde avant tout, l'amitié avec les militants, les gens qui sont battus avec lui, plus tard avec des personnalités nationales, enfin, qu'il a soutenues et auprès desquelles il s'est engagé.
Quel regard aurait-il aujourd'hui sur la politique, selon vous ?
Oh, il a un regard acéré encore. Vous voyez, il n'a pas du tout perdu son intérêt. Il suit évidemment, depuis l'élection de Nicolas Sarkozy, il suit tout ça pas à pas. Très curieux à la fois des nouvelles manières d'être président de la République, des nouvelles méthodes de gouvernement, et parfois un peu surpris, parce que c'est normal, il y a un énorme décalage âge, à 88 ans, vous découvrez finalement la génération. Bien qu'il ait beaucoup de contacts par ses petits-enfants, si vous voulez, sur le monde d'aujourd'hui. Les petits-enfants lui permettent justement de ne pas dériver vers autrefois et de garder un regard sur ce qui se passe aujourd'hui. Alors les petits-enfants lui expliquent Internet, lui expliquent ceci, cela. Bon, donc ça lui permet quand même de comprendre. Puis il regarde beaucoup la télévision, mais il la regarde pas du tout de manière passive, de manière active, et il s'intéresse absolument à tous les progrès de la société. Mais enfin, sur Nicolas Sarkozy, il a certainement son opinion. Je la donne pas, mais il faudrait l'interroger à ce moment-là.
Mais est-ce qu'il se retrouve dans l'époque que l'on vit, dans ce temps qui a beaucoup changé ?
Oui, c'est-à-dire il s'y retrouve. Oui, c'est son époque, ça je crois pas du tout. Il est engagé, par exemple politiquement, il ne se déplace plus, mais il fait sa procuration pour que mon frère ou moi allions voter à sa place. Jamais il ne pourrait tolérer de ne pas voter à telle ou telle élection, même municipale, etc. Donc, si vous voulez, il reste un citoyen totalement engagé et il n'a pas du tout abdiqué son rôle de citoyen. Maintenant, bien sûr, c'est quand même quelqu'un qui est retiré à la fois de la scène politique, des combats politiques, et puis dont les amis disparaissent beaucoup, parce qu'après 80 ans, vous perdez beaucoup de vos compagnons de route. Donc c'est certain qu'il y a un isolement, en tout cas sur le plan de l'amitié, pas du tout familial, mais sur le plan de l'amitié, c'est certain.
Vous disiez qu'il était engagé. Finalement, en quoi est-il engagé ? Dans sa carrière politique, qu'est-ce qui le fait avancer ?
Je crois que oui, c'est une idée assez simple. Parce que mon père, c'est quelqu'un qui est peut-être vu comme un intellectuel, à mesure où il a fait des études, où il a écrit de très nombreux livres, où il est toujours en train d'exercer sa pensée sur le monde d'aujourd'hui ou d'hier. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a des raisonnements très simple, des raisonnements, je dirais, percutants. Vous voyez, c'est souvent ce qui me frappe chez lui. Il a une sorte d'art de la synthèse. Il n'aime pas les complications, les analyses compliquées, etc. Et donc, il va assez souvent droit à la cible. Et quand je disais qu'il était un homme engagé, j'entendais engagé non pas un engagement, vous voyez, au sens militant, mais un engagement, ce qui veut dire, oui, il est partie prenante dans la vie de la cité, oui, il s'engage, veut dire, il a une position sur le plan politique notamment, et il s'y tient, voilà, il est... au fond, son idée à lui, peut-être simple, c'est d'essayer de faire avancer les choses pour un monde sans doute meilleur qu'il ne l'est. Voilà.
Revenons à sa région avant de terminer. Quel regard porte-t-il sur sa région ? Est-ce qu'il est plutôt positif ou négatif aujourd'hui par rapport à ce qui s'y passe sur le plan positif ? Sur le plan politique, pardon.
Sur la région, il est très positif. Il trouve que bon, ça va. Mais évidemment, comme beaucoup de départements, celui-là a des problèmes. Notamment économique, et bon, ce sont les siens. Mais il ne va plus, si vous voulez, contester les gens qui s'occupent de la politique des Pyrénées-Orientales, des PO, comme on dit dans le département. Donc il fait confiance aux nouvelles équipes, hein, voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans les Pyrénées-Orientales, qui sont d'abord un département un peu à l'écart, lointain, vu de Paris, c'est vraiment très très loin, le TGV n'y va pas, les avions sont de plus en plus rares, etc. Donc elle a l'impression d'une région un peu quand même abandonnée. Alors elle est liée par le sort à Montpellier maintenant, puisque c'est Languedoc-Roussillon. Perpignan, c'est le Roussillon. Mais en même temps, cette région est assez originale parce que je dirais que peut-être plus liée encore qu'à Montpellier, elle est liée à Barcelone. Justement parce que c'est la même culture, c'est la même langue et une partie de notre histoire est commune. Et donc la proximité de Barcelone lui donne peut-être un avenir intéressant. D'ailleurs, les équipes actuelles essaient de développer ces liens avec la capitale de la Catalogne.
Alors pour ce qui concerne les œuvres littéraires, on va quand même énumérer quelques œuvres importantes. Vous avez évoqué donc Au village de mon enfance, Homme libre. Il y a également Yalta ou Le partage du monde. Il y a Tous les 1er janvier, 1900, 1920, 1940, 1960, 1980, puis 1983. Je crois même qu'il y en a eu en 1981 ou 1982.
Oui, et il doit y avoir également un 1789 et peut-être un 1800. En fait, le cœur de ces 1er janvier, c'était 1900, 1920, 1940, 1960.
Voilà, c'est ce qu'on sent.
Et ensuite, bon, parce que il concevait cette série comme, c'est ainsi en tout cas qu'il l'a intitulé, l'histoire à pas de 20 ans. Et chacun de ces livres, au prétexte du 1er janvier, est une fresque de l'époque. Qu'est-ce que la France en 1900? Qu'est-ce que le monde en 1900? Quelles sont les personnalités dominantes? Comment vit-on quotidien? Quels sont les soucis ou les crises, les grands événements qui marquent ce jour-là la population française? Voilà. Et à travers cette fête d'un 1er janvier, montrer finalement une sorte de portrait, un portrait contemporain. Voilà. C'est l'histoire à pas de 20 ans.
C'est une idée originale et
finalement, je crois que dans l'œuvre de mon père, il y a deux grandes voix. Il y a, je dirais, une voix mineure, néanmoins importante, profonde, qui est la voix intimiste et romanesque. Là, on pourrait inscrire des livres comme d'abord le premier de tous, qui est La légende de Pablo Casals. Mm-hmm. C'est le premier livre écrit par mon père tout jeune sur ce grand héros catalan qui est le musicien, le violoncelliste Pablo Casals. Mais ensuite, il y a des romans, il y a beaucoup de romans dans l'œuvre de mon père. Et des ouvrages intimistes, on a cité Au village de mon enfance. Il y a aussi un livre qui s'appelle Un provincial à Paris. Il y a Homme libre. Enfin, ce sont les livres à la fois confidences, récits personnels, voire autobiographiques ou romanesques. Et puis, il y a la voix, je dirais royale, la voix majeure, ce qui est le plus important certainement, ce qui peut-être reste... ou je ne sais pas si ça restera plus, parce que les autres sont très touchants et très vrais, mais c'est l'œuvre historique. Alors là, c'est une œuvre vraiment abondante, je dirais centrée principalement autour de la Révolution et du XXe siècle. Voilà. Il y a une première partie Révolution, avec notamment ce livre très important qui s'appelle « Sire, ils ont voté la mort », qui est une analyse très minutieuse du procès de Louis XVI. Comment les députés sont venus à Paris pour voter, oui ou non, la mort du roi, comment ils sont arrivés et ce qui les a déterminés chacun à leur tour à voter pour ou contre la mort du roi. Et donc là, on a tous les députés en place, avec leur nom, leur histoire, etc., comment ils sont arrivés sur un âne ou en charrette, ou voilà, pour aller voter. Là, c'est un livre important. Il y en a d'autres qui sont consacrés à la Révolution, notamment une biographie de Billaud-Varenne. La plus grande partie, c'est quand même l'œuvre sur le XXe siècle, avec bon, bien sûr la série des 1er janvier, mais aussi des livres très très importants comme effectivement Yalta et Bandung, qui sont deux livres consacrés aux deux conférences internationales, notamment la première, sous-titrée « Le partage du monde ». Et puis, bien d'autres. Il y a des ouvrages sur la Première Guerre mondiale, il y a des ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale. Il y a vraiment, si vous voulez, une œuvre abondante, qui est une œuvre d'historien sur le XXe siècle.
Quelle est, selon vous, l'œuvre qu'il chérit le plus ?
Alors, je lui ai posé la question il n'y a pas si longtemps, et j'ai vu qu'il avait finalement hésité, peut-être parce que chaque livre lui a apporté un très grand plaisir à la fois de recherche et d'écriture. Et c'est vrai qu'il a beaucoup d'affection pour ses 1er janvier. En plus, je crois que ses 1er janvier lui ont apporté beaucoup de courriers de lecteurs, beaucoup de liens avec un grand public, si vous voulez, que ses autres livres d'histoire n'atteignaient peut-être pas. Peut-être aussi le livre sur Louis XVI qui a été un grand moment dans sa vie. grands moments de travail, de recherche, de passion.
Oui, parce que c'est des ouvrages quand même très lourds pour connaître.
Oui, mais si vous voulez, oui, ce sont des ouvrages d'histoire, donc il y a forcément des références, des dates, des analyses, etc. Mais il y a aussi, peut-être c'est une chose dont il faudrait parler, ce style d'Arthur Comte, qui est un style de clarté. Il a une manière d'écrire qui n'appartient qu'à lui, très imagé, beaucoup d'images, souvent des phrases sonores et colorées, mais jamais chargées, jamais lourdes, qui visent à la clarté en tout cas. La pensée peut être suivie par tout le monde, c'est pas réservé aux grands spécialistes, aux experts en histoire. Il me semble que chacun peut lire ces ouvrages de mon père sans trop de difficultés, vraiment.
Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Je terminerai par une petite citation. En 1956, « Nous autres n'aimons notre pays que lorsqu'il demeure humain. Nous l'aimons, non point pour lui-même, mais pour les hautes missions généreuses que nous espérons de lui ou que nous savons de lui. » Merci beaucoup, Dominique Bonnat, d'avoir participé à cette émission et je vous dis à très bientôt.
Tot allò que haurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada, deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar.